Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
À suivre jusqu'à 20h, la sociologue Anne Muxel pour nous parler de la radicalité et de la violence, notamment chez les jeunes. Et également Antoine Bondaz de la Fondation pour la Recherche Stratégique qui nous parlera de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin la semaine prochaine. Mais tout cela après votre journal. Bonsoir Hélène Zelani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Puisqu'il est 19h sur Europe 1. Gros coup de vent et tornade, la tempête Matisse a balayé une bonne partie de la France.
Oui, un homme a été tué par la chute d'un arbre dans les Vosges. Une tornade a frappé un village de l'Indre. Le point sur les dégâts dès le début de ce journal. L'inflation se calme, mais les prix de l'alimentaire n'en finissent pas de grimper. Les consommateurs sont bien obligés de moins acheter. Reportage dans une grande surface. Dans ce journal, dernier jour pour demander le chèque carburant, une nouvelle dirigeante pour la CGT, Elisabeth Borne à la rencontre de syndicalistes dans la Nièvre et puis d'importantes dégradation. Après 10 jours d'occupation de l'université de Bordeaux en centre-ville, elle a été évacuée par la police.
Et après cette tornade, la tendance météo. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Encore pas mal de vent dans les heures qui viennent et de moins en moins demain. Sur le Pas-de-Calais, on a relevé durant les dernières heures 115 km/h au Cap Griné, 101 à Boulogne, 98 à Abbeville, entre 110 et 120 sur le domaine côtier normand. Seule la Manche est encore en alerte orange vent.
A tout à l'heure pour le point complet. Des rafales de vent particulièrement violentes accompagnées de pluie. La tempête Matisse a traversé une bonne partie de la France ce vendredi.
76 départements en vigilance jaune ou orange. Des dégâts matériels, on va y revenir. Mais surtout, un jeune homme de 19 ans a été tué par la chute d'un arbre dans les Vosges, Simon Bourtembourg.
Oui, il se trouvait sur une aire de repos aux abords de Sénone, une commune des Vosges balayée par les vents ce matin. Alors que le jeune homme se promenait à proximité de son véhicule, il a été touché mortellement par la chute d'un arbre. La tempête Matisse a donc fait une victime. Elle a aussi parfois pris la forme d'une tornade, comme à Buzançais dans l'Indre. La puissance des bourrasques était inédite, assure Régis Blanchet, maire de la commune.
C'était tourbillonnant, donc c'est passé dans différentes rues. Beaucoup plus de conséquences, vous en doutez. Des maisons dont les toits sont éventrés, nombreux arbres tombés, arrachés, des véhicules écrasés. Les bâtiments publics touchés, médiathèques, églises, écoles primaires. Dans l'école privée, il y a un préau qui s'est envolé et une poutre a traversé la vitre et est rentrée dans une classe entre la maîtresse et les élèves. Un miracle que ça ne soit pas tombé sur les élèves.
Pas de victimes donc, mais près de 150 habitations ont été touchées. Le maire nous assure que la solidarité s'organise en ce moment pour venir en aide aux sinistrés. Les chutes d'arbres ont également touché certaines lignes électriques par endroits. En Dordogne, par exemple, 700 foyers sont encore privés d'électricité.
Simon Bourtembourg, les Alpes sont placées en vigilance jaune avalanche.
Et puis cet avis de grand vent, si l'on peut dire aussi sur les prix de l'alimentaire, ils ont explosé près de 16% de hausse en mars sur un an.
Oui, chiffre de l'INSEE publié aujourd'hui. En mars, l'inflation a ralenti à cause du coup de frein sur les prix de l'énergie. Ce sont donc les prix de l'alimentaire qui ont pris le relais comme moteur de l'inflation. Par ailleurs, la consommation des produits alimentaires a reculé de 8% sur un an. Ça se ressent très clairement dans les allées des grandes surfaces. Chloé Lagadou s'est rendue dans un hypermarché de Châtillon, en région parisienne.
Sur le parking du magasin, Marie-Chantal pousse son chariot à moitié plein. À l'intérieur, ses courses pour la semaine à venir.
Là, j'ai pratiquement rien. Et c'est vrai que j'en ai déjà pour 100 euros. J'ai du lait, j'ai du papier toilette et de l'épicerie, quoi. Je fais très attention aussi à ce que j'achète. Et en fait, je me cantonne à une liste.
Avec la hausse des prix de l'alimentaire, difficile de tenir son budget. Sophie n'a pas le choix, elle se prive.
Je regarde beaucoup plus les prix. Il y a des choses que j'achète plus... que j'achetais avant. Les gâteaux, les trucs comme ça que je me payais, je fais plus attention maintenant. Bon, c'est pas le plus cher, mais il faut faire des choix, donc voilà.
Certains passent alors en mode bon plan. Dabi, elle, traque les promotions.
Je fais des déplacements quand je sais qu'il y a un produit qui est pas cher. Je regarde les catalogues, je regarde sur Internet. J'essaye de trouver les bonnes techniques pour dépenser moins. Ça devient trop serré les fins du mois.
Et pour faire baisser encore un peu plus l'addition, certains se tournent vers les enseignes discount pour l'achat de leurs fruits et légumes.
Voilà le reportage de Chloé Lagadou. On continue sur le pouvoir d'achat. Ce vendredi est le dernier jour pour faire la demande du fameux chèque carburant de 100 euros.
Oui, vous avez jusqu'à minuit. Après, ce sera trop tard. En 3 mois, sur les 10 millions de potentiels bénéficiaires, seuls 4 millions ont effectivement demandé et reçu leur chèque, Baptiste Morin.
Oui, Bercy a beau affirmer, je cite, que cette aide a bien trouvé son public. Le ministère avançait au départ 10 millions de bénéficiaires potentiels. Seulement 4 sur 10 auraient donc été concernés au bout du compte. compte. Rappelons qu'il faut remplir deux conditions pour recevoir ce chèque. Faire partie des 50% des Français actifs les plus modestes et puis posséder un véhicule. L'utilisation de celui-ci pour se rendre au travail fait l'objet d'une simple déclaration sur l'honneur. Les chiffres par département montrent aussi que tous les foyers éligibles n'y ont pas forcément eu recours. À Paris et dans les départements de la région parisienne, moins d'un foyer éligible sur quatre a effectivement fait la demande de ce chèque carburant. Conclusion, même s'ils possèdent un véhicule, les foyers concernés ne l'utilisent pas pour se rendre sur leur lieu de travail. 4 millions de bénéficiaires au lieu de 10, ça signifie en tout cas des économies pour l'État sur le milliard d'euros prévu. Moins de 500 millions seront finalement dépensés.
Baptiste Morin, et puisqu'on parle de carburant, la grève à la raffinerie Total Énergie de Donges en Loire-Atlantique est reconduite pour une cinquième semaine consécutive. En moyenne, environ 11% des stations-service sont en rupture partielle dans toute la France, avec des situations contrastées selon les régions. L'Île-de-France et les Pays de la Loire étant les plus touchés, autour de 30%. Et puis ce vendredi marque aussi la fin de la trêve hivernale, ce qui veut dire que les expulsions pour impayés vont pouvoir reprendre.
Et dans ce contexte social assez explosif, la CGT vient donc d'élire sa dirigeante.
Oui, Sophie Binet succède à Philippe Martinez et devient ainsi la première femme secrétaire générale du syndicat depuis sa création en 1895. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi cette élection à Cournon d'Auvergne. Sophie Binet, c'est une surprise.
Oui, effectivement, parce qu'elle ne faisait pas partie des candidates déclarées. Son nom est sorti du chapeau au bout de la nuit parce que les délégués n'ont pas réussi à départager les deux favorites. Sophie Binet est donc issue de la Fédération des cadres, ingénieurs et techniciens. Il va falloir vous habituer à cette femme de 41 ans, aux yeux clairs et au ton très volontaire, avec pas mal d'humour, notamment lorsqu'elle reconnaît qu'elle n'est pas Philippe Martinez. Écoutez.
Le visage, oui, vous voyez, je n'ai pas de moustache, donc oui, il a changé. C'est une énorme responsabilité parce que quand on est secrétaire général de la CGT, on doit rassembler le monde du travail, défendre les salariés. Donc c'est une responsabilité et une tâche immense.
Sophie Binet est donc la première femme à la tête de la CGT en 128 ans d'existence, ce qui séduit ses deux délégués régionaux.
C'est la nouvelle image de la CGT, première secrétaire générale femme, qui est jeune, qui est cadre. Même auprès des ouvriers, on est en cadre et ça, c'est un très bon signal envoyé.
Faut pas croire parce qu'elle est issue des cadres qu'elle est modérée. Elle va tout à fait charbon.
Sophie Binet, très combative, écoutez par exemple le chant qu'elle lance à la tribune avant même d'avoir pris la parole ce matin. Et elle l'a dit, si mercredi elle va voir Elisabeth Borne, ce ne sera pas pour discuter, mais d'abord pour exiger le retrait immédiat de la réforme des retraites.
Jean-Luc Bougeot au congrès de la CGT en Auvergne pour Europe 1. Réaction d'Elisabeth Borne à l'élection de Sophie Binet, c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes.
Elisabeth Borne qui d'ailleurs recevra l'intersyndicale à Matignon mercredi, dont donc la CGT bien sûr. Aujourd'hui la Première Ministre était de retour sur le terrain.
Oui, visite dans la Nièvre pour parler éducation aux côtés de son ministre Papendiaï. Vous les avez suivis, Alexandre Chauveau, et lors de cette visite, Elisabeth Borne a rencontré l'intersyndicale locale.
Oui, un échange qui n'était pas prévu au programme, qui a duré une quinzaine de minutes et qui n'a pas vraiment servi à inverser les positions des deux parties. Il n'empêche, la démarche illustre la volonté de dialogue d'Elisabeth Borne, elle qui ne transige pas sur la réforme des retraites, mais qui souhaite désormais avancer et discuter avec les syndicats. Elle les rencontrera mercredi à Matignon à son invitation.
Je me réjouis qu'effectivement l'intersyndicale vienne à la rencontre que j'ai proposée. Chacun pourra aborder les sujets qu'il souhaite. Et voilà, pour notre part, on expliquera aussi notre position. Il y a un projet de loi qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel. On ne peut pas faire de pause, mais moi je suis à l'écoute et chacun aura l'occasion d'exprimer ses positions lors de cette rencontre.
Elisabeth Borne aimerait surtout commencer à aborder d'autres sujets, comme celui de la qualité de vie au travail. Mais les syndicats ont déjà indiqué qu'ils exigeraient la suspension, si ce n'est le retrait de la réforme des retraites. Un dialogue de sourds en prévision donc, et ce, malgré la volonté de dialogue des deux parties.
Alexandre Chauveau dans la Nièvre pour
19h09 sur Europe 1. Dans un instant, nous revenons sur la contestation autour de la réforme des retraites. L'université de Bordeaux a été évacuée par la police avec 10 jours d'occupation. A tout de suite.
Europe 1 soir week-end. Informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et il est temps de parler bricolage, jardinage et décoration avec Weldom.
Bonjour Lucie Fréal, vous êtes directrice marketing chez Weldom, qui a été élue meilleure chaîne de magasins 2023 dans la catégorie bricolage. Qu'est-ce que cela représente pour Weldom ?
Pour Weldon, c'est une vraie fierté. Ça récompense la dynamique qui a été mise en place tout au long de l'année avec un nouveau concept de magasin. Et dans ce nouveau concept, vous avez une image qui est beaucoup plus moderne, un parcours qui est beaucoup plus fluide et adapté aux attentes de nos clients.
Alors bien sûr, Weldon va concourir à nouveau pour tenter de remporter le prix en 2024. Quels sont les critères pris en compte ?
Alors, c'est vraiment finalement les produits et les services que l'on propose, l'expérience que l'on fait vivre, et ce prix récompense aussi la relation avec nos clients tout au long de leur parcours.
Et je crois que l'ouverture des votes, c'était hier, c'est bien ça ?
Oui, en effet, et les votes sont ouverts jusqu'au 10 juillet.
Merci, et on se retrouve vendredi prochain pour continuer à parler bricolage, jardinage et décoration avec Weldom.
Notre livreur Prime Vidéo prend son couloir. Prise de vitesse foudroyante, tout en restant prudent, il gagne du terrain, pénètre dans la zone, plus que quelques mètres, et c'est livré ! Vous aussi, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match PSG-OL en exclusivité sur Prime Video.
À l'écoute des entreprises avec Digipost. Pourquoi choisir Digipost, le coffre-fort numérique de la Poste, quand on est un chef d'entreprise ? Réponse dans un instant.
Europe 1 Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Et à 19h11, la suite du journal d'Hélène Zélani. Après 10 jours d'occupation, l'université de Bordeaux, victoire, a été évacuée par les forces de l'ordre tôt ce matin.
Oui, un bâtiment ancien en plein centre-ville, tag et destruction en pagaille ont été découverts à l'intérieur, Stéphane Place.
Oui, lancé au départ par des étudiants opposés à la réforme des retraites et au 49-3, le mouvement avait été rejoint par une majorité d'autres occupants extérieurs à la fac, avec des dégradations et des problèmes de sécurité qui ont conduit effectivement le président de l'Université de Bordeaux, Dean Lewis, à demander l'intervention des forces de l'ordre.
Beaucoup de tags. Il y a eu un dégât des eaux aussi, donc une partie qui a été inondée. Puis des vitres cassées, des portes défoncées, du matériel audiovisuel abîmé. Et on a un salon donc, qui servait pour les réceptions qui a été complètement saccagé, avec des miroirs qui ont été cassés. L'université a son assurance, avec une franchise qui est importante, puisque comme cet événement arrive régulièrement, ben, on a des difficultés à trouver un assureur. Mais on a une assurance, hein, donc le coût sera en grande partie supporté par cette assurance. On parle de quelques centaines de milliers d'euros.
Croisés devant le bâtiment, ces deux étudiants bordelais déplorent les dégradations.
Tout ce qui constitue à l'intérieur de la fac, ça n'aurait pas dû être touché.
Et franchement, ouais, c'est un peu regrettable qu'il y ait de la casse, des gens qui n'aient rien à voir avec tout ce mouvement-là.
L'évaluation des dégâts est en cours. Ce sont désormais des CRS qui sécurisent le bâtiment, qui restera fermé, indique l'université, jusqu'à la remise en état des locaux.
Oui, ce qui pourrait conduire jusqu'à la rentrée prochaine. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Toujours contre la réforme des retraites, les contrôleurs aériens continuent leur grève. 20% des vols seront annulés lundi et mardi à Orly, Marseille et Bordeaux. Le pape François va mieux. Il sera de retour au Vatican demain après 3 jours d'hospitalisation pour une bronchite. Cet après-midi, il a même fait une visite surprise dans le service de cancérologie pédiatrique. Appuyé sur son déambulateur, il a apporté des œufs en chocolat aux enfants et a baptisé un bébé de quelques semaines.
Les footballeuses françaises ont désormais un sélectionneur, Hervé Renard, qui a pris la parole aujourd'hui.
Oui, nommé hier pour remplacer Corinne Diacre, il était présenté officiellement au siège de la Fédé et vous y étiez, Cyril de la Morinerie.
Oui, Hervé Renard, tout sourire, cheveux blonds parfaitement coiffés, chemise noire, n'a pas caché sa joie de prendre en main la sélection féminine. Assis à côté du président de la fédération, Philippe Diallo, le charismatique entraîneur n'a pas hésité à résilier son contrat avec l'Arabie Saoudite pour revenir en France, même si cela en a étonné plus d'un.
Alors, je ne vous cache pas que même dans mon entourage le plus proche, ça a surpris beaucoup de monde. Mais moi, c'est une question de challenge. Il n'y a rien qui remplace les grandes compétitions.
Et en ligne de mire, la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été. Objectif, atteindre au moins les demi-finales. Et pour cela, le technicien de 54 ans, passé par Lille et Sochaux, veut recoller les morceaux avec certaines frondeuses. Hervé Renard a rappelé la légende Wendy Renard, mais surtout Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, laissée de côté par Corinne Diacre depuis près de 2 ans.
Ce qui s'est passé avant, ça ne me regarde pas. Moi, je me focalise sur le présent et sur le futur.
Et le futur proche, c'est vendredi prochain avec ce premier match de préparation de la Coupe du Monde à Clermont face à la Colombie.
Cyril de la Morinerie au siège de la Fédération de foot, du foot masculin ce soir en Ligue 1. L'OM reçoit Montpellier, coup d'envoi à 21h et c'est bien sûr à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Le prochain film de Martin Scorsese est sélectionné pour le Festival de Cannes en mai prochain. Killers of the Flower Moon réunit 2 stars, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio qui seront présents sur la croisette. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Sachez aussi, et ça va vous intéresser Pierre, qu'un membre du gouvernement est en une du prochain Playboy. Il s'agit de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Tiens. Elle pose habillée d'une longue robe blanche et surtout donne une interview au magazine, notamment pour parler des droits des femmes. Les marchés financiers maintenant.
Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse.
Et nous sommes avec Didier Hamot de Boursier.com, cinquième
le
séance
de la bourse.
Voilà, c'est cela. Cinquième
ça
séance
venir, hein.
De hausse à Paris.
Oui, cinquième séance de hausse consécutive, ça continue, ça remonte. Hein. On est à 1% des records historiques d'il y a un mois, plus 0,8% le CAC 40 ce soir à 7322 points. Le ralentissement de l'inflation en Europe qui se confirme, surtout avec la baisse des prix de l'énergie, et bien cette tendance soutient de gros dossiers comme Danone, plus 2%, Orange, plus 2% aussi, LVMH, plus 2%. Le groupe de luxe est au plus haut historique ce soir, 844 euros. Le groupe LVMH pèse 424 milliards d'euros ce soir à la clôture. Les autres places financières sont en hausse, ça monte à Francfort, plus 0,7%, Madrid, plus 0,2%, Milan, plus 0,3%. Le CAC 40 donc en hausse de 0,8%, 7 322 points.
Merci Didier Hamot.
Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé ? C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.
Et merci à vous, Hélène Zélani, pour le journal de 19h. La météo, Valérie Darmon, le temps va-t-il rester perturbé demain ?
Moins qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Toutes les vigilances ont été levées à l'heure où l'on se parle. La Manche n'est plus en alerte orange. Pluie et vent vont baisser en intensité, mais restent présents, tournant même à l'orage demain après-midi sur les deux tiers nord de la France. Il y a une seule exception dans notre ciel, hein. Le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la Corse, où le temps sera bien ensoleillé et sec, au prix d'un vent d'ouest à nord-ouest qui souffle fort. 70 à 90 pour la Tramontane, des Côtes-Varois à l'île de Beauté. Ailleurs, de la Haute-Normandie à la Lorraine jusqu'au Hauts-de-France, le ciel qui reste couvert, qui reste gris toute la journée, donnant des pluies continues et durables, notamment sur le Pas-de-Calais et l'ouest de la Somme, où les cumuls seront encore une fois importants. Et sur le reste du pays, le ciel est chaotique avec de fréquentes averses et quelques vagues éclaircies. Des orages qui sont attendus dans l'après-midi de la Bretagne au Poitou-Charentes jusqu'aux frontières de l'Est avec de fortes rafales sous les grains d'orage. Il neige aussi très fort hein, sur les Alpes à partir de 1200 mètres, 1500 sur les Pyrénées. Le risque d'avalanche est très élevé sur le massif alpin. Et le vent d'ouest est sensible aussi en Bretagne. Tout pour plaire demain dans notre ciel avec des maximales qui restent fraîches. 10 à 15 degrés en général, jusqu'à 20 sur les régions méditerranéennes et en Corse.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, la suite d'Europe 1 Soir au week-end avec la sociologue Anne Muxel qui nous parlera de la violence chez les jeunes, radicalité, violence quand la France renoue avec ses démons révolutionnaires. C'est votre vendredi thématique sur Europe 1. A tout de suite.